VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 septembre 2017, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia et Arnold Butson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, le calme est revenu hier à Uvira après les craintes d'une attaque des Maïmaï Yakutumba contre la ville.
Rapport accablant de Human Rights Watch contre le Cameroun accusé d'avoir expulsé près de 100 000 réfugiés nigérians.
300 Togolais ont fui vers le Ghana depuis la semaine dernière pour échapper à la répression des manifestations contre le pouvoir en place.
Le Nigeria devrait se retirer d'au moins 90 sur 310 organisations internationales pour faire des économies.
L'administration Trump envisage de réduire drastiquement le nombre de réfugiés accueillis aux États-Unis en 2018.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, le calme est revenu hier à Uvira après une grande panique de la population suite à des tirs entendus de loin pendant toute la journée. Selon notre correspondant au Sud Kivu, Ernest Mouero, la population craignait apparemment la prise d'assaut de cette ville de l'est de la RDC par les Maïmaï du général William Yakutumba. Ces derniers contrôlent depuis quelques jours plusieurs localités au nord de Fizi et de violents affrontements sont signalés sur l'axe Fizi-Uvira entre l'armée régulière congolaise et ses Maïmaï.
Ces tirs proviennent des forces armées de la RDC qui pourchassent des rebelles Maïmaï dans les collines surplombant la cité d'Uvira. Pour le moment, la situation est sous contrôle, a réagi le capitaine Dieudonné Kaseraka, l'un des porte-parole de l'armée dans le sud Kivu. Dans le territoire de Fizi, l'ancien officier William Yakutumba, général autoproclamé à la tête d'une milice qui porte son nom, a affirmé lundi dans un enregistrement audio vouloir chasser le président Joseph Kabila du pouvoir.
Le centre d'analyse International Crisis Group estime qu'il faut s'attaquer aux finances des groupes armés en Centrafrique qui se battent pour le contrôle des ressources naturelles. C'est ce que dit aujourd'hui l'ICG dans un rapport. Alors qu'un regain de violence ravage la République centrafricaine depuis plusieurs mois, pour le groupe de réflexion, la lutte contre les trafics les plus rémunérateurs, diamants, or, bétail, doit être au cœur de la stratégie de sortie de crise. Et une reprise par des forces internationales des principaux sites miniers de l'est du pays présenterait plusieurs avantages.
L'ONG Human Rights Watch accuse le Cameroun d'avoir expulsé près de 100 000 réfugiés nigérians fuyant les violences du groupe djihadiste Boko Haram. L'organisation a également parlé dans un rapport accablant d'actes de torture et d'agression sexuelle qu'aurait commis l'armée camerounaise contre ces réfugiés. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Conséquence de la crise au Togo, les autorités ghanéennes ont confirmé que 300 Togolais ont fui vers le Ghana depuis la semaine dernière pour échapper à la répression des manifestations populaires contre le pouvoir en place. Des détails avec Claire Moragibour.
Les premiers réfugiés togolais sont arrivés dans la nuit de mercredi à jeudi, la semaine dernière, dans le district de Chereponi, dans le nord-est du Ghana, selon Tété Padi, directeur du Conseil ghanéen pour les réfugiés. Il a confirmé qu'un petit nombre de Togolais continuaient de passer la frontière chaque jour. Tahirou Abdulrazak, le chef du district de Chereponi, a déclaré à la presse avoir distribué aux réfugiés de la nourriture, des nattes, des couvertures et des moustiquaires. Les 20 et 21 septembre, des dizaines de milliers de Togolais ont manifesté à l'appel de l'opposition pour demander le départ du président Faure Gnassingbé. À Mango, dans l'extrême nord, à la frontière avec le Ghana, la répression a été particulièrement violente. Un enfant de 10 ans a été tué et deux corps ont été retrouvés dans le fleuve.
En Guinée, des milliers de personnes ont, selon l'opposition guinéenne, assisté hier à Conakry à l'inhumation de deux opposants tués par les forces de l'ordre lors d'une manifestation. Le point avec Morgane Guériec.
Les deux jeunes avaient été blessés par balle le 20 septembre avant de succomber à leurs blessures. L'opposition a condamné un usage excessif et disproportionné de la force lors de cette manifestation pour réclamer l'organisation des élections locales qui n'ont pas eu lieu depuis 2005. La Commission électorale nationale indépendante a finalement annoncé lundi que ces élections seraient organisées le 4 février 2018, une date approuvée par l'opposition. Nous réclamons justice pour nos victimes. Non à l'impunité, ont scandé les manifestants lors de la cérémonie funèbre. La manifestation pacifique s'est déroulée sans présence visible des forces de l'ordre.
Pour faire des économies, le Nigeria devrait se retirer d'au moins 90 sur 310 organisations internationales auxquelles il appartient. C'est ce qu'a affirmé hier la ministre des Finances. Des détails avec Yakuba Ouédraogo.
La ministre des Finances, Kemi Adeosun, a expliqué que les contributions aux centaines d'organisations internationales coûtent 70 millions de dollars par an au gouvernement d'Abuja. Elle a ajouté que son pays accumule des retards de paiement, évaluant à 120 millions de dollars les cotisations non honorées par le Nigeria. Toutefois, aucune liste n'a été produite. La ministre des Finances a indiqué que ces dettes causent un certain embarras pour les délégations nigérianes à l'étranger. Payer sa cotisation donnant droit à avoir une voix dans les réunions internationales. Depuis sa nomination en 2015, Kemi Adeosun tente de réduire les dépenses de l'État pour relancer la croissance. Premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria souffre de la chute des cours de l'or noir qui représente la majorité des recettes de l'État.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire américain à la Défense, Jim Mattis, estime que les États-Unis, avec leur nouvelle stratégie pour sortir de l'impasse avec les rebelles talibans en Afghanistan, ne vont pas renoncer à la lutte dans ce pays. Ils seront en revanche mieux à même d'appuyer les forces afghanes pour inverser la tendance face aux terroristes. M. Mattis, qui parlait hier à Kaboul, a souligné que les États-Unis n'abandonneront pas l'Afghanistan à un ennemi sans merci. Quelques heures après l'arrivée du chef du Pentagone, une attaque à la roquette contre l'aéroport de Kaboul a fait un mort et plusieurs blessés. Les talibans et le groupe État islamique ont tous les deux revendiqué cette attaque, disant qu'elle visait l'avion de M. Mattis. Il n'était plus sur place.
L'administration Trump envisage de réduire drastiquement le nombre de réfugiés recueillis aux États-Unis en 2018, et ce malgré les appels des groupes humanitaires pour l'admission de beaucoup plus de réfugiés. Dans un rapport au Congrès, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle allait admettre dans le pays jusqu'à 45 000 réfugiés, soit le nombre le plus petit depuis plus de 35 ans. Le plus gros contingent de ces réfugiés, 19 000, soit 42% du total, viendront d'Afrique.
Après l'annonce officielle et sans surprise d'un oui massif au référendum d'indépendance à plus de 92%, le Kurdistan irakien est de plus en plus isolé face aux pressions de ses voisins et de la communauté internationale. La première mesure de rétorsion irakienne a commencé à se faire sentir. Les compagnies aériennes du Liban, d'Égypte et de Turquie ont annoncé hier qu'elles suspendaient leur liaison avec le Kurdistan irakien à compter de vendredi, à la demande de Bagdad.
La Birmanie a décidé d'entrouvrir jeudi aux organisations humanitaires la porte de l'État de Rakhine, théâtre de violences depuis août, qui ont fait fuir près de 500 000 musulmans Rohingyas vers le Bangladesh voisin. Il y aura un voyage organisé par le gouvernement, probablement jeudi, vers Rakhine, a annoncé hier, lors de son point presse quotidien, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. C'est un premier pas. Il y aura des chefs d'agence de l'ONU qui vont y participer. Mais nous espérons surtout que c'est un premier pas vers un accès beaucoup plus libre et large dans la zone, a ajouté Stéphane Dujarric.
Ici aux États-Unis, les Africains-Américains, qui représentent 13% de la population adulte, disent ce qu'ils pensent de la présidence de Donald Trump. Ils l'ont dit dans un rare sondage réalisé par l'Institut Perry Undem entre le 18 juillet et le 7 août 2017 auprès de 1003 Noirs âgés d'au moins 18 ans. Des détails avec Anastasie Toudièche.
Les enquêteurs ont demandé au panel comment ils se sentaient avec Donald Trump à la tête du pays. Au total, 63% se sont dit inquiets, 45% disent avoir peur et 42% sont en colère. Seuls 12% des personnes interrogées ont déclaré être optimistes, 7% ont de l'espoir et 5% pensent que les décisions politiques de Donald Trump vont les affecter de manière positive. Mais 64% pensent le contraire. Les enquêteurs ont également demandé à cet échantillon en qui ils avaient le plus confiance sur les sujets les concernant. 92% ont cité Barack Obama, le premier président noir des États-Unis, et l'ancienne première dame Michelle Obama. Le mouvement Black Lives Matter, qui dénonce la violence policière contre les Noirs, a obtenu 81% des voix.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Blanche Sano.
Un programme compact de 262 milliards de francs CFA vient d'être approuvé par Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire. Selon APA News, cette somme est destinée à stimuler la croissance, réduire la pauvreté et diversifier l'économie à travers des investissements dans les secteurs de l'éducation et des transports. Le MCC est une agence indépendante du gouvernement américain qui a pour mission la réduction de la pauvreté dans le monde. La hausse de la production industrielle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se poursuit. D'après les statistiques fournies par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, l'indice de la production industrielle a ainsi progressé de 2,6%. Au Sénégal, l'Agence française de développement a mis à la disposition du pays une enveloppe de 21 milliards de francs CFA. Cet appui va permettre au Sénégal de financer la promotion des exploitations familiales agricoles dans la région de Matam. Pour sa part, le directeur de l'AFD, Rémi Riou, a indiqué que le projet APFAM 2 allait permettre de réduire de moitié le déficit de la balance commerciale sur les cultures céréalières et atteindre rapidement l'autosuffisance en riz à l'horizon 2018.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
En Europe, le PSG envoie un signal fort lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions.
Le test était attendu, les Parisiens ont répondu présent, une victoire 3-0 au Parc des Princes à domicile contre le Bayern Munich. Et il fallait arriver tôt hier soir au Parc des Princes puisque Dani Alves a inscrit le premier but dès la deuxième minute de jeu. Les buteurs parisiens de cette rencontre, Edinson Cavani et l'inévitable Neymar, le Paris Saint-Germain, premier de son groupe. A noter le beau succès du Celtic sur la pelouse d'Anderlecht, 3-0. Et dans son nouveau stade, l'Atlético Madrid qui chute face à Chelsea. Les Colchoneros avaient pourtant ouvert le score grâce à Griezmann à la 40e minute de jeu. Oui, mais voilà, les Blues ont réussi à égaliser par Morata. Puis c'est Batshuayi qui a permis aux Blues de l'emporter 2-1. Le carton de la soirée, le FC Bâle qui l'emporte à domicile 5-0 face au Benfica. A noter également la belle victoire à l'extérieur du CSKA Moscou, 4-1 avec notamment le doublé de Lukaku. Victoire 2-0 à domicile de la Juventus contre l'Olympiakos. A noter aussi la courte victoire de Barcelone, mais elle est précieuse face au Sporting Portugal. C'est Coates qui a inscrit un but contre son camp. Enfin, l'AS Rome qui s'était imposé un peu plus tôt dans la soirée, 2-1 en Azerbaïdjan face à Karabakh.
La Ligue Europa ce jeudi.
Dès ce soir, l'AC Milan et Arsenal ont l'occasion de conforter leur place en tête de leur groupe respectif de l'Europa League face aux modestes Croates de Rijeka et les Bélarusses du Baté Borisov. Les autres rencontres importantes, la Real Sociedad sera en Russie pour affronter le Zénith Saint-Pétersbourg. Les Italiens de l'Atalanta Bergame vont à Lyon et les Autrichiens de Salzbourg reçoivent l'Olympique de Marseille.
Mondial 2018, le Ghana face à l'Ouganda. Sans les frères Ayou.
Kwesi Appiah, le sélectionneur du Ghana, a retenu 26 joueurs pour le déplacement en Ouganda. Ce sera le 7 octobre prochain lors des éliminatoires du Mondial 2018. A noter que André et Jordan Ayou ne figurent pas sur la liste pour jouer cette rencontre. Les cadres habituels Asamoah Gyan ou Thomas Partey ou encore Christian Atsu sont bien présents.
Varane prolonge avec le Real.
Le défenseur français de 24 ans a prolongé son contrat au Real Madrid pour 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2022. Il imite ainsi Marcelo qui avait prolongé jusqu'en 2022 ou encore Karim Benzema.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Dans un rapport intitulé « Forcés à monter dans des camions comme des animaux », Human Rights Watch accuse le Cameroun d'avoir expulsé de force près de 100 000 réfugiés nigérians fuyant les violences de Boko Haram. Ces réfugiés, selon l'ONG, ont aussi été victimes d'actes de torture et d'agressions sexuelles de la part de l'armée camerounaise. Jacques Aristide nous propose un dossier complet sur le sujet, y compris la réaction du gouvernement. D'abord de Genève, écoutez Jerry Simpson, directeur adjoint du programme « Droits des réfugiés » à Human Rights Watch.
Nous avons également décrit des exactions très graves par des militaires camerounais qui ont torturé, agressé et exploité sexuellement des demandeurs d'asile. Ils ont empêché d'ailleurs des demandeurs d'asile d'entrer en contact avec l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Et finalement, ils ont renvoyé sommairement ces 100 000, souvent de manière très violente, ces gens vers le Nigeria. Nous avons aussi documenté des brutalités, des mauvaises conditions dans des camps de réfugiés au Cameroun.
Qu'attendez-vous maintenant de la part des parties concernées, dont le Cameroun?
Tout d'abord, nous avons fait appel aujourd'hui aux autorités camerounaises de cesser ces abus, de mettre devant la justice des soldats qui sont responsables pour cette grave violence. Également important, nous avons fait aux autorités de donner libre accès aux agences des Nations Unies pour les réfugiés pour enregistrer des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui restent coincés dans ces zones frontalières sans recours à la protection. Les autorités n'ont pas répondu à nos demandes de commentaires sur nos recherches. Ils ont également refusé de nous envoyer une lettre d'invitation qui est nécessaire pour obtenir un visa pour aller au Cameroun. Nous n'avons pas pu rentrer au Cameroun pour lancer ce rapport et nous avons donc lancé ce rapport au Nigeria. Par contre, nous espérons que les Nations Unies au Cameroun, ils reprennent le relais maintenant et qu'ils mettent de la pression sur les autorités pour faire cesser ces abus et protéger les demandeurs d'asile du Nigeria.
Yaoundé rejette catégoriquement toutes ces accusations. Écoutez le ministre camerounais de la communication et porte-parole du gouvernement, Issa Kiroma Bakary.
Accusations mensongères, diffamatoires et attentatoires à l'honneur de notre nation. Le Cameroun qui a toujours fait preuve de compassion, de générosité et d'empathie se trouve aujourd'hui sur le banc des nations au motif que le Cameroun a procédé à un rapatriement forcé des réfugiés nigériens. Complètement, je voudrais d'abord vous rappeler une chose, cher monsieur. Le Cameroun est signataire des chartes des Nations Unies en matière de protection et des droits de l'homme et de protection des réfugiés, comme la charte de l'Union africaine. La deuxième vérité que je voudrais assumer consiste à dire que nos forces de défense et de sécurité, en plus du respect de nos lois, reçoivent un entraînement aussi bien de la France, des États-Unis et de tous les pays amis pour le respect des droits de l'homme, des réfugiés et même des militants et sympathisants de Boko Haram qui seraient pris en flagrant délit. Nous rejetons ces accusations et nous disons donc que ceci probablement participe ou procède d'une conspiration dont l'objet est de jeter le discrédit sur notre nation. Nous n'acceptons pas. Une telle chose n'a jamais eu lieu.
L'ONG accuse également l'armée camerounaise d'avoir torturé, agressé et exploité sexuellement des demandeurs d'asile nigérians dans des régions frontalières reculées et de les avoir empêchés d'entrer en contact avec le Haut Commissariat pour les réfugiés. Votre réaction ?
Complètement faux, monsieur, complètement faux. Nous avons eu affaire à ces accusations il y a quelques mois. Nous en avons administré la preuve du contraire et nous disons que tout cela participe naturellement d'un objectif, celui de prendre notre nation en otage pour l'obliger à ouvrir un autre camp, Minawao, un autre camp de réfugiés. Le Cameroun n'accepte pas d'être une nation à ciel ouvert pour héberger des réfugiés. Il faudrait que ce soit entendu et compris par tout le monde. Nous hébergeons déjà plus de 450 000 réfugiés. Et vous pouvez imaginer ce que ça nous coûte dans notre budget. Nous avons déjà le front de Boko Haram. Nous avons ces réfugiés. Alors ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça.
Human Rights Watch affirme avoir écrit au gouvernement camerounais pour obtenir un commentaire sur leur découverte, mais qu'il n'y a pas eu de réponse jusqu'ici. L'ONG déclare également que les autorités ont empêché ses responsables de venir lancer le rapport au Cameroun. Qu'avez-vous à dire?
Je suis en train de parler au nom du gouvernement camerounais. Je n'ai jamais vu une telle invitation parce que je suis le seul au niveau du gouvernement autorisé à m'adresser à la presse internationale aujourd'hui. Je n'ai jamais vu une telle demande, une telle requête. Et si d'aventure ils voulaient venir me voir, dites-leur que je suis disposé à le recevoir à tout moment.
Issa Tiroma Bakari, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, joint à Yaoundé. Ce dossier sur les accusations de Human Rights Watch contre le Cameroun a été réalisé par Jacques Aristide.
Et Kabadou avec vous dans Washington Forum ce jeudi, le point sur l'actualité migratoire de l'administration Trump. En janvier, Donald Trump décidait d'interdire le territoire américain aux ressortissants de 6 États musulmans afin de prévenir d'éventuels risques terroristes. Le Tchad, la Corée du Nord et le Venezuela viennent d'être ajoutés à cette liste. Le Soudan vient d'en sortir. Comment interpréter cette mesure? Comment sortir de cette liste noire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h en temps universel.
En République centrafricaine, la société civile lance un ultimatum de 3 semaines à la MINUSCA et au gouvernement de Bangui pour rétablir la paix dans les zones en conflit. Et elle menace, et je cite, de prendre ses responsabilités au cas où la situation ne changerait pas. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
La société civile centrafricaine, exaspérée par la montée des violences à l'intérieur du pays, tient pour responsable le gouvernement et la MINUSCA. Paul Cresson Beninga, son porte-parole.
Cet an dernier, nous avons constaté la recrudescence de violences dans l'arrière-pays, notamment dans les régions de la Rana Mambéré ou Mpendé, et si on n'y prend pas garde, bientôt Mambéré-Kadéi. Face à ces violences, nous avons remarqué une passivité de la MINUSCA, l'inaction du gouvernement qui n'a même pas tenu un discours condamnant les exactions des groupes armés, ni adressé un message de condoléances aux familles endeuillées. Le silence fort inquiétant des parlementaires, fort de ces remarques, le groupe de travail de la société civile tient pour responsable le gouvernement et la MINUSCA des morts de nos concitoyens, lâchement abattus par des terroristes déguisés.
La société civile lance un ultimatum de 3 semaines aux autorités et à la force de l'ONU de rétablir la paix dans les localités en proie aux violences. L'organisation menace de mener des actions de grande envergure en cas d'absence de solution.
Nous allons décréter dans un plus bref délai une journée nationale de deuil sur toute l'étendue du territoire en la mémoire de nos compatriotes assassinés, notamment ceux de Bokaranga. Nous lançons un ultimatum de 3 semaines au gouvernement et à la MINUSCA pour recadrer le tir. Passé ce délai, nous allons procéder à une action de grande envergure et ce, d'une durée illimitée jusqu'à la satisfaction de nos recommandations et revendications.
Cette instabilité sécuritaire dans le pays, malgré la présence des casques bleus, est aussi dénoncée par certains élus de la nation. Arsène Kongo, député de Bria.
La population civile a critiqué la MINUSCA par rapport à ses failles. La MINUSCA, quand ils arrivent, au lieu de faire l'interposition, ils ne font pas interposition. S'il y a quelque chose, au lieu de protéger la population, ils ne protègent pas la population. Et il y en a beaucoup que je ne peux pas tout citer. Ça, ce sont les failles de la MINUSCA.
Ces derniers temps, des manifestations anti-soldats de la MINUSCA ont eu lieu à Bouar et à Bozoum. Ikavi Betanou, porte-parole intérimaire de la MINUSCA, onusienne dénonce une manipulation de la population par une main invisible.
On est sur un terrain qu'on connaît bien, où il y a des réactions qui disent non, la MINUSCA ne fout rien, la MINUSCA n'est jamais restée les bras croisés. Ça, il faut le dire et l'affirmer pour que ces gens-là entendent bien que c'est vraiment malheureux que des populations qui sont déjà victimes, qui ont besoin de la présence de la MINUSCA, soient manipulées. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que cela ne nous empêchera pas de continuer inlassablement à conduire notre mandat sur le terrain pour le bien de la population.
Depuis la reprise des violences dans le nord et dans le nord-ouest, les autorités de Bangui n'ont fait aucune déclaration officielle. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Près de 200 à 300 jeunes guinéens qui ont subi une rafle à Alger ont été transférés à Tamanrasset dans le sud du désert du Sahara. Un premier groupe a été abandonné dans le désert. Ces jeunes guinéens lancent un cri de détresse pour être ramenés chez eux. Idriss Fall a pu recueillir les témoignages de ces jeunes, dont, pour commencer, Alassane Souma, près de la frontière avec le Niger.
Plus de 200 et quelques Guinéens. Nous sommes à Tamanrasset, entre la frontière de l'Algérie et le Niger.
Qu'est-ce que vous étiez venu faire à Tamanrasset?
Bon, s'il vous plaît, je veux répondre à votre question. Moi, c'est Bakayoko Boubacar. Nous étions à Algerville. La police est venue nuitamment nous arrêter sans aucune formalité parce qu'on ne nous a pas demandé de papiers. Naturellement, nous avons obéi. Nous sommes montés dans leur bus. Nous sommes arrivés dans une autre cité policière. Nous avons fait des formalités. À Géralda, juste après là-bas, nous ont embarqué dans les bus. Environ 14 bus comme ça, nous sommes venus, nous ont déposé juste au niveau de Tamanrasset.
Pourquoi ils ne vous ont pas ramené en Guinée alors?
Pour le moment, ils ne font pas de communication.
Ils nous ont enfermés ici, quoi.
Et vous vivez comment alors?
Nous sommes dans une prison déguisée, parce que nous sommes dans des blocs comme des dortoirs. Les premiers 3 jours, on était enfermés, on n'avait pas la liberté de nous mouvoir. Il s'agit de sortir. C'est eux qui ouvraient la porte et on partait juste
pour manger le pain seulement.
Manger le pain, le haricot, deux fois le riz. Dès que nous finissons de manger, ils nous ramènent dans nos blocs respectifs. Nous avons fait une revendication à ce qu'ils puissent vraiment alléger les mesures de rétention qu'ils nous ont imposées. Ils ne sont pas des criminels, ils n'ont pas le droit de nous enfermer et nous priver de nos libertés.
Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec l'ambassade de Guinée ou bien le consulat?
Oui, tout à fait. Nous avons pu communiquer avec l'ambassade qui nous a rassuré qu'ils sont en train de veiller sur notre situation, qu'ils se battent à nous mettre en contact avec l'OIM. Sans l'implication de l'OIM, nous n'avons aucune confiance parce que nous avons appris des sources concordantes qu'un premier convoi qui était parti a été abandonné dans le désert. Et ils devraient marcher à plus de 200 km avant d'atteindre le Niger. Certains parmi eux ont perdu la vie en cours de route.
Vous faites partie de ces jeunes migrants qui tentaient de rejoindre l'Europe alors?
Non, pas du tout. On n'avait pas cet objectif. Tous des travailleurs. Personne n'est venu faire des démarches pour rejoindre l'Europe.
Vous voulez vraiment retourner en Guinée alors?
Oui, si les autorités algériennes ne veulent pas nous voir dans leur pays,
je vais retourner en Guinée.
Ce que nous demandons aux autorités guinéennes, c'est de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que notre rapport se fasse avec l'appui de l'OIM et de la Croix-Rouge internationale et que des mesures d'accompagnement soient prises parce que au moment de nos différentes arrestations, les policiers, la gendarmerie nous ont dépouillés de tout. Ils ont cassé les portes, entré dans les domiciles, violenté les gens, prendre tout ce qui est dans nos postes. Il y a certains parmi nous, c'est seulement l'habit qu'ils portent. La plupart d'entre nous quand même sont dans une situation très difficile à expliquer.
Cri de détresse de jeunes Guinéens à Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie.
VOA Afrique vous donne la parole.
Dans un nouveau programme interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à 18h TU.
Postez vos questions sur notre page Facebook avec votre numéro de téléphone et partagez votre avis en direct sur les points saillants de l'actualité.
À votre avis,
votre voix sur la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, Roger Mountou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Patrick Dea. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.